Voilà, maintenant je vous invite à ouvrir vos Bibles à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. On va lire donc tout ce chapitre, le début du chapitre 6 également, mais gardons en tête en même temps ce que nous avons lu il y a quelques instants dans Philippiens chapitre 2, puisque le message est parallèle. Donc Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Amen. Donc, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à vivre une vie chrétienne, une vie qui est digne de cette étiquette de chrétien. Mais ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que notre vie chrétienne, être chrétien, ce n'est pas juste un petit compartiment de la vie qui concerne une pratique religieuse, si c'est le culte à l'église, si c'est le fait de lire notre Bible et de prier à la maison. Nous sommes très forts, n'est-ce pas, pour faire des compartiments de la vie. Il y a notre vie de travail, il y a notre vie de famille, il y a notre vie de couple, il y a notre vie chrétienne. Sauf que c'était justement le genre de reproche que Jésus faisait aux pharisiens, de faire le compartiment de la vie religieuse où on vivait à ce moment-là, dans ce contexte-là, parfaitement selon ce que Dieu demandait, mais à condition que c'était juste hermétiquement fermé dans ce domaine-là et ne touchait pas notre cœur, n'avait pas d'autres implications sur notre vie. Mais la vie chrétienne que décrive la Bible, en fait, englobe la transformation de tout notre être, de toute notre personne, de toute notre vie à l'image de Jésus. Nous sommes censés ressembler à Jésus le dimanche matin à l'église, mais nous sommes censés aussi ressembler à Jésus le dimanche après-midi lorsque nous rentrons à la maison. Nous sommes censés ressembler à Jésus le lundi matin. Nous sommes censés ressembler à Jésus à tout instant de notre vie, dans tous les contextes, toutes les circonstances. Il y a un principe fondamental de la vie chrétienne écrit par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20, où il a dit « J'ai été crucifié avec Christ ». D'ailleurs, samedi dernier, on se l'est rappelé, n'est-ce pas, lors du baptême. « J'ai été crucifié avec Christ et la vie que je menais par moi-même, selon moi-même, à l'image de moi-même, je l'ai même ensevelie dans les eaux du baptême. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » C'est un principe, on ne peut plus fondamental pour notre manière de vivre en tant que chrétien. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie a été rachetée par Jésus-Christ. Parfois, notre chair aimerait bien diviser l'œuvre de Dieu en deux parties. Il y a la partie où Jésus prend notre péché, il y a la partie où nous bénéficions de tout ce qui découle de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Il y a la partie où donc nous avons l'espérance éternelle, nous avons les bénédictions. Nous voulons cette partie de la rédemption, que notre vie de péché soit effacé et que nous recevions la vie éternelle, mais pas que Jésus rachète ma vie entièrement, qu'il me laisse ma vie privée, qu'il me laisse mon temps à moi, qu'il rachète tous les méfaits de ma vie, qu'il rachète le droit de me donner la vie éternelle et de pardonner mon péché. Sauf que la rédemption, c'est une appartenance à part entière. C'est finalement l'image qui a été prise du marché des esclaves. Le rachat, c'était quelqu'un qui achetait le droit sur la vie de quelqu'un. Après, l'esclave ne pouvait pas aller vers son maître en lui disant « Écoute, je suis désolé, mais il est 5h30, j'ai fait mes heures, maintenant c'est mon temps à moi. » Il était la propriété de son maître tout le temps. Si le maître disait bah, « Tu vas continuer non seulement à travailler à partir de 5h30 jusqu'à 6h30, mais jusqu'à minuit ou même plus », il n'avait pas son mot à dire, parce qu'il appartenait à son maître. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La personne qui avait le droit avant sur ma vie, la vie dans laquelle moi je pouvais dire « je veux faire ceci, je veux faire cela », voici ce que moi j'aime faire. Dieu va devoir s'arranger. Cette personne-là a été ensevelie sous les eaux du baptême. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, si j'ose le dire, Jésus n'est pas schizophrène. Il n'a pas un comportement qu'il ait eu pendant qu'il était sur terre dans son corps, et puis un autre comportement lorsqu'il vit en moi. C'est le même Jésus-Christ qui vit en moi, qui a vécu sur la terre il y a 2000 ans, qui est mort sur la croix. Son comportement à travers moi va ressembler son comportement de l'époque. Ses attitudes, maintenant, vont ressembler à ses attitudes d'alors. Il veut vivre de la même manière dans la vie de son Église que lorsqu'il était sur la terre. Si le Saint-Esprit a voulu que les quatre évangéliste écrivent ce récit de la vie de Jésus, c'était pour qu'on puisse voir à quoi ressemble un homme pleinement rempli du Saint-Esprit, en train de marcher dans la volonté de Dieu, pour qu'on sache comment nous sommes censés vivre aujourd'hui, grâce à l'œuvre que le Seigneur a fait. Pour ça que donc, dans le passage que nous venons de lire, ce chapitre 5 s'ouvre avec les paroles « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Est-ce qu'on y arrivera parfaitement tout le temps? Non, parce que notre corps attend encore d'être pleinement racheté. Mais notre rôle, notre objectif en tant que chrétien doit être de devenir les imitateurs de Dieu. Non pas de dire « Ben moi je suis comme ça ». Peut-être tu étais comme ça, mais la Bible dit, cette personne-là est morte. La question n'est pas comment suis-je moi, qu'est-ce que j'aime moi, la question c'est comment est notre Seigneur, qu'est-ce que lui, il veut. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pierre également va dire dans 1 Pierre 2, verset 21, « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul peut dire « Soyez mes imitateurs » simplement parce qu'il peut dire par la suite « Parce que moi je suis imitateur de Dieu. » Donc, moi, mon rôle, dit Paul, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Comme ça, je suis en train de vous donner un bon exemple à suivre, parce qu'on est en train de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Tout à l'heure, quand nous avons lu dans Philippiens chapitre 2 également, il avait dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez la pensée de Jésus-Christ. » Que ce que Jésus-Christ désire pénètre dans votre vie pour suivre son exemple. Pour cela, c'est sans doute peu surprenant que la suite de ce passage dans Éphésiens chapitre 5 et 6 concerne avant tout la vie de tous les jours. Puisque finalement, suivre l'exemple de Jésus-Christ est quelque chose qui va impacter tous les domaines de notre vie, tous les jours de notre vie. Nous sommes donc appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Mais quel est cet exemple? Qu'est-ce que ça veut dire, suivre l'exemple de Jésus-Christ? Important de noter que dans le verset 2, l'apôtre Paul dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ ». Marcher dans l'amour, mais qu'est-ce que c'est cet amour dans lequel nous devons marcher, cet exemple d'amour que nous devons suivre? Il dit, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans Philippiens 2, à nouveau, à partir du verset 6, il est dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cet exemple d'amour dans lequel nous devons marcher, c'est l'exemple de l'amour divin en Jésus-Christ qui l'a conduit jusqu'à la croix par laquelle il s'est sacrifié. Il n'a pas choisi son propre intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que l'amour n'est pas égoïste, ne prend pas en premier son propre intérêt. Heureusement pour nous, nous avons pu nous rappeler tout à l'heure par la Sainte Cène que Jésus n'a pas choisi son propre intérêt. Mais parce qu'il nous aime, il a décidé, je vais mettre l'âme de Jéthro avant mon propre confort. Je vais mettre l'âme de Bruno avant mon propre confort. Je vais mettre l'âme des personnes qui vont me suivre devant mon propre intérêt, devant mon propre confort, parce que je les aime et je suis prêt à payer le prix de mon amour. Ça a commencé par le fait de quitter le ciel, comme dit Paul dans Philippiens chapitre 2. Dans la version du semeur, ce verset 6 de Philippiens chapitre 2 essaie de rendre cette image plus visible en disant « Lui, qui dès l'origine était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. » Il n'a pas voulu profiter de son égalité avec Dieu parce qu'il savait que s'il s'appuyer sur cette égalité avec Dieu. S'il avait réagi lorsque le Père a dévoilé son plan du salut en disant, ça ne va pas, non. Mais ça va faire mal de subir cela. Et de toute façon, moi je suis Dieu. De quel droit on me demande de quitter le ciel, de quitter la gloire et de prendre la forme d'un de ces petits humains? S'il avait réagi comme cela, il n'y aurait aucun espoir pour nous. Il n'y aurait que cette attente terrible de jugement dont parle l'épître. Mais il n'a pas cherché à profiter de ce statut qu'il avait. Vous imaginez, lui qui est depuis toujours est Dieu, il était prêt à s'humilier. Nous, parfois, on insiste sur nos droits à nous. Qui sommes-nous à côté de Jésus-Christ? Si lui, il peut mettre de côté ses droits, qui sommes-nous de ne pas pouvoir faire pareil? Lui n'a pas cherché à profiter de son statut, mais il a accepté de quitter la gloire pour prendre un corps humain. Et même pour prendre à tout jamais un corps humain. D'être uni à nous pour toujours. Ce n'était pas une décision pour en disant « bon, je subirai cela une trentaine d'années ». Maintenant, il est Jésus-Christ ressuscité. Il est dans un corps ressuscité, glorifié certes, mais tout de même dans un corps. C'est ça le mystère de la nature de Jésus-Christ. Depuis toujours de condition divine, parti de ce Dieu trinitaire, ce Dieu qui est esprit et qui pourtant a pris corps humain et qui est maintenant ressuscité dans un corps humain qui reviendra marcher dans ce corps humain sur la terre. De plus, il n'a même pas dit « bon, je suis prêt à faire ce sacrifice-là, à quitter la gloire, mais à condition que je sois une espèce de surhumain avec plein de pouvoir et que je puisse gouverner toute la terre en faisant peur à tout le monde. » Il a choisi de prendre le corps humain d'un bébé avec tout ce que cela implique comme faiblesse, comme vulnérabilité, comme dépendance. En plus, bébé dans une famille sans importance. D'où l'erreur des rois mages, qui eux sont allés directement à Jérusalem. Ils ont dit, bon, nous avons compris qu'il est né un roi des Juifs. Où est-ce qu'on va trouver le roi des Juifs? C'est au Grand Palais à Jérusalem, donc allons-y. Sauf que ce n'était pas là que Jésus-Christ était venu. Il avait choisi de devenir bébé dans une famille sans importance, né dans des conditions les plus vulnérables. Il a choisi d'expérimenter personnellement de quoi nous sommes faits, de vivre pleinement nos galères, de vivre pleinement nos faiblesses. Il a choisi de prendre une forme qui a permis qu'il soit, nous dit la lettre aux Hébreux, tenté en toute chose comme nous. De vivre une vie humaine dans laquelle il a été tenté à tout point de vue, de pouvoir faire toutes les bêtises, tous les péchés que nous pouvons faire. Pourtant, à en sortir victorieusement sans péché. Il a vécu une vie parfaite. Il est venu d'ailleurs dans l'objectif de vivre une vie parfaite afin d'être le sacrifice parfait pour notre péché. Il a choisi de faire ça tout en sachant depuis le début de son ministère comment cela allait se terminer. Je ne sais pas si parfois nous arrivons à imaginer quel poids ça a dû être sur sa vie d'exercer son ministère tout en sachant pertinemment comment cela allait se terminer. Vous imaginez déjà la tentation d'abandonner ou de trouver d'autres solutions, de trouver d'autres moyens d'essayer d'atteindre le même objectif. D'ailleurs, c'est justement sur ce point-là qu'en Matthieu 4, le diable tente Jésus en lui disant « Mais si tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas besoin de souffrir. » Parce qu'il donnera ordre à ses anges pour que même ton pied ne heurte pas une pierre. Donc, aller jusqu'à la croix. Mais non, chercher une autre solution. Tu peux gouverner toute la terre sans aller à souffrir sur la croix. Tout ce qu'il faudrait, c'est de t'arranger avec moi. Et je t'épargne toutes ces souffrances. Jésus savait pertinemment vers où il allait. Il a juste dû choisir le bon moment pour commencer à en parler à ses disciples. Sauf que ses disciples, pour eux, c'était inimaginable qu'ils soient venus dans l'objectif de mourir sur une croix. Jamais, Seigneur, on permettra cela. Car donc, après, il a choisi effectivement de venir souffrir et mourir sur une croix, comme nous le sommes rappelés tout à l'heure. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Au-delà des souffrances physiques, il a même accepté de prendre dans son corps notre péché, de payer le prix pour notre péché. Lui, qui ne savait pas ce que c'était de pécher, est devenu péché pour nous en prenant notre péché sur lui. 1 Pierre 2,24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. Il a accepté de faire tout cela par amour. Amour pour le Père, mais aussi amour pour nous, sachant que c'était le seul moyen possible de nous sauver, de nous permettre d'entrer en relation avec le Père, de nous permettre d'avoir la vie éternelle. Il a accepté par amour, nous montrant que l'amour a un prix, que l'amour est sacrificiel. Jean 15, verset 13, il avait dit à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est ce que lui, il a fait pour nous. C'est à cause de cela, c'est parce que par amour, il a choisi de faire tout cela, il a accepté de faire tout cela, que nous recevions le salut et toutes les bénédictions spirituelles liées au salut que nous avons en Jésus-Christ, comme nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 1 et 2. Et donc, Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Finalement, c'est à cela que Dieu nous appelle. D'ailleurs, lorsque Pierre, dans 1 Pierre 2, parle de marcher à l'exemple de Christ qui nous a laissé un exemple, il dit, c'est à la souffrance pour Dieu que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ, de vivre une vie comme Jésus a vécu pour nous, de marcher dans l'amour, sachant pertinemment que l'amour aura un prix et que l'amour est sacrificiel. L'amour est sacrificiel parce que l'amour doit toujours mettre l'autre à la première place, comme Christ a choisi de nous mettre à la première place. De dire, je suis de nature divine au ciel, mais je suis prêt à renoncer à tout cela parce que j'aime ceux qui vont me suivre, j'aime mes disciples, j'aime ma famille, et si je dois donc, je vais souffrir pour que eux, ils aient la vie. Jésus a mis notre intérêt avant le sien. Et donc l'apôtre Paul nous appelle à vivre cela dans nos relations. Pour ça que justement, dans la suite d'un chapitre qui commence par « Devenez les imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ », Il continue par la suite en parlant de nos relations et de comment vivre dans nos relations les uns avec les autres. Dans l'église, entre frères et sœurs, comme dans la famille, à la maison, comme sur notre lieu de travail. La Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas uniquement par la foi que Christ est mort pour que moi je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Vivre par la foi, c'est aussi croire que je suis appelé à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Que je suis appelé à vivre cet amour sacrificiel parce que c'est comme ça que je crois que Christ a vécu pour moi. Et donc, il m'appelle à vivre comme ça pour les autres. Alors, tant que cela reste de la théologie, d'une théorie, c'est bien beau, n'est-ce pas? Toutes ces pensées de ce que Christ a fait pour nous, le fait que les chrétiens nous sommes appelés à vivre à l'exemple de Christ, c'est bien beau. On est tous contents, on est tous d'accord. C'est lorsque ça devient pratique que ça devient beaucoup plus difficile. Parce que ce n'est pas facile de se soumettre à quelqu'un d'autre par amour. Parce que la nature du péché, c'est de veiller sur le numéro un. De veiller sur nous-mêmes. De s'occuper de soi-même. Alors, il faut bien s'occuper de soi-même parce que personne d'autre ne le fera. Ce n'est pas facile de se soumettre par amour et donc de considérer que les personnes qui sont assises ce matin à la droite de toi, à la gauche de toi, devant toi, derrière toi, sont plus importantes que toi, et que ce que eux ils vivent et ce que eux ils pensent est plus important de ce que moi je pense, et que donc je dois me soumettre par amour pour eux. Ce n'est pas plus facile de se soumettre dans l'intérêt de notre conjoint, surtout dans notre société actuelle où l'ultime bien, c'est la réalisation personnelle. J'ai besoin du temps pour moi. J'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin de m'assurer que moi, je vais bien. Les autres, s'il me reste un peu de temps après, quand moi je vais bien, peut-être je pourrais leur partager un petit peu de mon bonheur à moi. Mais il faut d'abord que je m'occupe de moi. Heureusement pour nous, Jésus n'a pas dit « Il faut que je m'occupe de moi. » Il faut d'abord que moi, je vais bien. Il a dit « Je vais jusqu'à la croix. » Le prophète avait déjà vu en disant il aura un visage comme de la pierre afin de pouvoir affronter tous les défis pour aller jusqu'au bout. Lui a mis de côté son intérêt pour nous plutôt que de dire moi le premier et puis les autres. Dieu donc nous demande de suivre l'exemple de Jésus, de suivre Jésus en renonçant à notre réalisation personnelle, notre petit bonheur personnel. Jésus est allé jusqu'à dire, celui qui n'est pas prêt à prendre sa croix et à me suivre, n'est pas digne de moi. Lui, il a littéralement pris sa croix pour moi. Est-ce que nous, c'est trop demandé quand on cloue à la croix notre réalisation personnelle, notre temps à nous. De toute façon, si nous osons par la foi suivre la voie de Jésus, suivre ce que Dieu nous demande, nous trouverons notre vraie réalisation en lui. La vraie réalisation, ce n'est pas me mettre à la première place et me considérer comme un petit roi. Ma vraie réalisation, c'est de devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. Amen. C'est là que je trouverai la vraie joie, la vraie réalisation qui aura une valeur éternelle. Et de plus, j'aurai toute l'éternité pour profiter de cette meilleure version de moi-même. Parce que la meilleure version de moi-même, ce n'est pas une version pécheur bricolée par moi-même ou par la société en disant « Oh, bah, tu es une meilleure version de toi-même. » C'est impossible de créer une meilleure version de moi-même avec le péché. Il faut que les ingrédients, il faut que les matériaux de base soient bons pour pouvoir faire la meilleure version de moi-même. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. La meilleure version de moi, ce sera une fois que le péché a été éliminé de moi, une fois que mon corps a été ressuscité, là, je serai la meilleure version de moi-même.
Amen.
Pour l'éternité. Pour cela que donc, il dit... Dans votre relation avec votre conjoint, aime ton épouse de la même manière que Christ a aimé l'Église. Ce qui veut dire être prêt même à mourir pour son épouse. Se sacrifier pour elle. Ça peut vouloir dire être prêt à sacrifier du temps qu'on aurait pu passer devant la télé en lisant le journal, devant un match de foot, en jouant aux jeux vidéo. Ça peut vouloir dire sacrifier mes rêves dans l'intérêt de l'autre ou toutes sortes d'autres choses. Mais les sacrifier avec joie par amour, comme Christ s'est sacrifié pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu récompense ceux qui le suivent, ceux qui se sacrifient pour son royaume. Luc chapitre 18, Pierre disait à Jésus, « Voici, nous, nous avons tout sacrifié, nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus dit, « Je vous le dis en vérité. » Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Être prêt à sacrifier ses intérêts, son temps, pour le royaume, à cause du royaume de Dieu, puisque c'est ce que je crois que Dieu me demande de faire dans mon couple, dans ma famille, ce n'est pas perdre quelque chose. Le monde va essayer de nous mentir. Notre chair va essayer de nous mentir en disant, « Oh, mais tu perds quelque chose en te sacrifiant. » Je dis au contraire, c'est là que nous gagnons tout. Parce que nous marchons dans les voies du Seigneur. On se sacrifie l'un pour l'autre. Le mariage, ce n'est pas la continuité de la vie de célibataire, avec juste quelques moments partagés, en plus dans la chambre. Le mariage nécessite un investissement, du sacrifice, dans l'intérêt de notre vie de couple. De la même façon, ceux qui sont parents, on ne fait pas des enfants pour après vouloir vivre comme si on n'en avait pas. J'avoue, il y a des parents, je ne comprends pas. Ils font tout pour avoir des enfants. Mais une fois que l'enfant est là, tout ce qu'ils veulent, c'est s'en débarrasser pour avoir le temps à eux. J'ai besoin de mon temps à moi. Personne ne leur avait demandé de faire des enfants. S'ils voulaient la vie sans enfants, ils pouvaient l'avoir. Personne ne leur a obligé. Être parent doit aussi être l'occasion de se sacrifier. Sacrifice du temps et d'énergie, souvent lorsqu'on aimerait bien faire autre chose que ce que nos enfants ont en tête pour nous occuper. Mais là aussi, c'est important de se rappeler que, heureusement pour nous, Jésus n'a pas dit « Écoute, moi, j'aimerais plutôt faire autre chose. J'ai autre chose à faire avec mon temps. » Lui s'est sacrifié littéralement pour ses enfants. Et l'apôtre Paul applique aussi le même principe donc dans toutes nos autres relations. De marcher dans l'amour, qui veut dire mettre l'autre à la première place, ce qui veut dire sacrifier ce première place dans notre vie. Donc certes, l'amour n'est pas facile parce que l'amour est sacrificiel. Mais Paul peut dire marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si nous avons besoin de quelque chose, d'une aide-mémoire pour nous savoir comment nous sommes censés vivre tous les jours en tant que chrétiens, nous l'avons eu ce matin. C'est symbole du corps brisé, du sang versé. C'est ça notre modèle de comment Dieu veut qu'on vive. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ce que nous avons fait ce matin nous rappelle que par sa grâce, par son sacrifice, nous sommes devenus enfants bien-aimés. Mais comme des enfants bien-aimés, devenez donc imitateurs de Dieu. Nous avons tout reçu en lui, parce que lui, il a accepté de se sacrifier pour nous. Il nous appelle à suivre cet exemple dans nos relations les uns avec les autres. C'est ça, la vie chrétienne, dans laquelle nous découvrons la vie éternelle. Je propose qu'on prie quelques instants. Ce matin, permettons encore au Saint-Esprit de nous montrer ce que Christ a fait pour nous, par amour. Demandons également au Saint-Esprit de nous montrer comment maintenant nous devons appliquer cette même attitude de cœur dans nos relations avec nos frères et sœurs à l'Église, avec notre conjoint, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos collègues.